Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce beau numéro de Chut, on écoute la télé qui vous attend aujourd'hui. Un numéro très cinéma avec pas moins de plusieurs coups de cœur cinéma. Évidemment, fin d'émission, on va vous réserver déjà la venue exceptionnelle aujourd'hui des Baudins à l'occasion. Des Baudins partent en vrille. On va beaucoup rigoler avec Jean-Christian Fraissinet, Vincent Dubois et Guillaume Cléris. Il se pourrait bien même que Maria et Christian Baudin passent dans les parages. En fin d'émission, un rendez-vous à ne pas rater. Notre premier coup de cœur ciné est consacré également à Prosper avec justement le réalisateur Johan Glohagen qui sera accompagné de Cindy Bruna pour en parler. On va également accueillir Ken Scott pour la sortie de Ma mère Dieu et Sylvie Vartan qui sortira également mercredi dans les salles. Nos coups de cœur télé avec Carpe Diem qui continue ce soir sur TF1. Jessica Calvanda sera notre invité pour en parler cette semaine. Et puis on va parler de Après la nuit, la mini-série événement de France 2 avec Raphaël Langlais qui sera également notre invité. Et en exclu podcast, quatrième coup de cœur ciné cette semaine consacré au film Magma avec Cyprien Vial qui sera notre invité en exclusivité. Et puis je sens qu'on va bien se marrer en tout cas pendant cette émission. C'est parti, on démarre tout de suite avec notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film Prosper qui sort mercredi dans les salles. Son réalisateur Johan Glohagen est avec nous. Bonjour Johan.
Bonjour, bonjour à tous.
Elle n'est pas venue tout seul. Cindy Bruna est avec nous. Bonjour Cindy, qui joue le rôle d'Anissa.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux pour parler de ce film qui raconte l'histoire d'un chauffeur VTC qui va se retrouver dans une drôle d'histoire avec, on va dire, un malfrat qui a été mortellement blessé à l'arrière de sa voiture et en lui volant ses chaussures en croco, il va se retrouver dans sa peau. Une comédie fantastique et qui en même temps fait du bien, plutôt réjouissante. Comment est venue l'idée de base, Johan, raconte.
Alors à la base, c'est un producteur Thierry Lounas qui m'a approché pour me parler de ce projet qui était à l'étape embryonnaire à l'époque. J'ai rencontré Dominique Baumard qui était aussi à l'initiative de la première trame du scénario. Et ce qui m'a beaucoup plu à la première lecture, c'était l'originalité déjà du scénario, le thème qu'il abordait, c'est-à-dire celui de la confiance en soi, qui est un thème qui moi me parle en tant qu'homme. Et après, j'aurais jamais eu l'idée d'aborder ce thème-là dans l'univers de la SAP et des sapeurs. Donc je trouvais ça très excitant et très original. Et en même temps, ça m'a fait un peu peur aussi parce que je me suis dit, moi je ne suis ni sapeur, ni congolais, ni africain. Et j'ai senti tout de suite qu'il fallait faire un film, pour que le film soit réussi, il fallait faire un film qui soit ancré dans le réel, pas folklorique, et pour ça j'avais besoin de faire un travail d'immersion, ce que j'ai fait par la suite, jusqu'à ce que je me sente légitime pour peut-être aussi réécrire le film et me l'approprier.
Alors, ce qu'il y a aussi de perturbant des fois, c'est qu'il y a un côté très réaliste finalement dans ce côté fantastique. Il n'y a pas de gros effets spéciaux, à gros budget, etc. Donc du coup, on peut arriver à s'identifier assez facilement à ce qui pourrait nous arriver si on était dans ce genre de situation, évidemment complètement surréaliste, mais malgré tout, je trouve vachement réaliste.
Ben, c'est exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire que je voulais absolument que ce film soit ancré dans le réel. Parce que j'ambitionnais vraiment que les gens puissent croire au pouvoir de ces chaussures. Et je me suis dit, pour qu'on croie à la magie des chaussures, il faut que ce soit très ancré dans le réel et que les personnages soient très incarnés pour que le spectateur éventuellement puisse se reconnaître. Je sais pas, j'espère que le film a quelque chose d'universel, mais en tout cas pour qu'il puisse se dire, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Donc c'était vraiment une idée de départ que j'avais, que ce soit très très ancré dans le réel.
Et donc Prosper va se retrouver pourchassé évidemment par ceux qui en voulaient à ce malfrat incarné avec brio par Makita Samba, qu'on adore évidemment aussi. Et donc Cindy, tu joues cette petite amie, et donc tu vas faire connaissance de Prosper à travers à travers ton petit ami. C'est surréaliste là aussi, mais tellement bien joué.
Merci. C'est vrai que au départ, finalement, la première rencontre avec Prosper, je me demande qu'est-ce qu'il fait parce qu'il est chez moi, etc. Et puis, je vais croire en sa culpabilité. Je vais penser qu'il a tué finalement King.
Ah oui, c'est vraiment. Qu'est-ce que tu fais là, toi?
Oui, vraiment. Et puis, c'est une femme forte. Anissa, elle a pas peur. Elle sort un flingue. Et puis, malgré, elle est humaine aussi. Donc, elle a ses failles. Elle est très amoureuse, mais elle se définit pas par son couple non plus. C'est une femme très très forte. Mais voilà, qui va finalement à la fin se joindre à Prosper et à King, donc pour trouver ce fameux meurtrier.
Il y a des très belles scènes, Cindy, de toi pour le coup, quand tu commences à comprendre ce qui se passe, et il y a des très belles scènes d'émotion, en tout cas pour Anissa.
Mmh. Oui, c'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant avec ce rôle, c'est qu'elle est complète, elle a ses failles, elle a toutes ses émotions finalement, et elle passe par tout ça. Elle a la perte de son compagnon, elle est déterminée dans la recherche de ce meurtrier aux côtés de Prosper, puis elle se lie d'amitié avec Prosper. Il y a ce côté aussi très empathique à son égard, et puis voilà, non, c'est une belle relation qui va se créer entre Prosper et Anissa, et même si elle n'a pas super bien commencé finalement.
Alors, ce qui m'a frappé moi aussi, c'est justement ce changement de visage, de caractère, que ça soit chez Jean-Pascal Zadi ou chez toi, Cindy. À partir du moment où ils enfilent ses chaussures en croco, on voit, même toi, une fois tu as eu à les mettre, on va pas déflorer le film, mais une fois tu les as mis, on voit tout de suite le changement de visage, et un travail, là pour le coup, des comédiens et de la direction d'acteurs, qui est assez phénoménal.
Ouais, c'était hyper casse-gueule. Et moi, c'est ça qui m'a excité.
Oui, parce qu'il fallait qu'on y croie.
C'est exactement. Mais de toute façon, ce film était hyper casse-gueule. C'est ça qui m'a excité. C'est là que je me suis dit, là, il y a une vraie proposition de cinéma. À partir du moment où c'est casse-gueule, j'ai senti évidemment que j'allais pas tomber du mauvais côté, sinon j'y serais pas allé. Mais il y avait plein de choses comme ça. Et notamment l'incarnation, et de Cindy, à un moment donné, qui devient elle-même son petit ami, d'une certaine manière. Enfin, c'est surréaliste comme situation. Et pouvoir le jouer.
Parce qu'elle avait... Anissa.
Ouais, elle a une présence tellement incroyable. Et après, dès ses premiers essais, que je l'ai pas dirigé tant que ça, je voulais voir un peu elle, ce qu'elle en faisait intuitivement. Et ça se voyait qu'elle y est arrivée. Et très vite, elle a proposé quelque chose pour King, notamment, pour cette scène-là. Je l'avais rien dit. Et franchement, je me suis dit, ah ouais, ok, on va y arriver.
Elle envoie du lourd. Elle envoie du lourd. On va écouter la bande-annonce de Prosper. On va revenir juste après avec vous deux, Johan et Cindy. Ne bougez pas. On écoute ça tout de suite.
Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Je suis chauffeur VTC, j'habite chez ma mère, elle s'appelle Oisé Hélène. Elle dit, va.
Va aller des acacias. Je suis prêt à collaborer au maximum.
C'est bien lui?
C'est bien lui, quoi.
Ok. J'ai pris votre pote, là, Monsieur King, dans une course.
Allez, Hubert Yanangae.
Quand je me suis retourné...
Mm-mm. Quoi?
Mm-mm. Monsieur, il était déjà mort. C'est pas moi qui l'ai tué. Les 30 000, je les ai pris aussi, mais je suis en galère, je suis en chien. Ça fait une semaine que je porte le même slibard. Je lui ai pris ses chaussures, c'est vrai.
Les chaussures, elles sont magiques.
C'est moi.
King.
Ouais.
C'est notre spécial Prosper avec Johan Goagen, le réalisateur, et Cindy Bruna qui sont avec nous. Petite anecdote de tournage. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a particulièrement marqué, Cindy?
Alors, on a eu pas mal de fous rires avec Jean-Pascal Zadi. Oh,
c'est bizarre, je suis pas étonnée.
On connaît le personnage. Donc, pas mal de scènes comme ça, pas mal d'arrêts aussi parce qu'on était en fous rires. Donc ça a été les moments de joie du tournage. Et puis des scènes, la première qu'on a tournée, c'était celle dans la cuisine, donc qui se trouve finalement à la fin du film. Et c'est vrai que cette scène, scène, elle était particulière. On l'a vraiment travaillée. On a pris du temps. On a cherché. On a travaillé ensemble. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, finalement, d'aller jusqu'à ce perfectionnisme, en fait, tous ensemble. Et de voir aussi, parce que c'était le premier jour avec, enfin, pour moi, dans ce travail-là avec Johan. Et donc, tout de suite, j'ai été emballée. Je me suis dit, ah ouais, non, mais ça va être super. On va faire un super film. Et je trouve que le résultat, il est top. J'adore cette scène dans la cuisine. Et après, en bas du bâtiment de Prosper aussi, c'est une des scènes que j'aime le plus, que je trouve super marrante pour le coup, et voilà, voilà.
La maman Prosper, un personnage quand même.
Oui, Salimata Kamaki, dont m'a parlé Jean-Pascal Zadi très rapidement, parce que je cherchais quelqu'un pour jouer sa mère. J'avais du mal à trouver, et là il m'a dit, mais tu sais, moi Salimata, c'est ma maman de cinéma. Au début j'ai dit, ouais, mais on t'a déjà vu avec elle. Il me dit, et alors, lui de Finesse, il avait toujours la même femme au cinéma, ça t'a posé problème? J'ai dit, non, t'as raison, j'avais plus rien à dire, j'ai rencontré Salimata, puis alors là, on peut plus revenir en arrière après.
Yoann, ta scène préférée aussi?
Ouh là là.
Eh ben, j'aime beaucoup cette scène de la cuisine, effectivement, avec Anissa, Prosper et Alpha. Je trouve qu'elle représente bien le film, dans le ton, dans la direction artistique. Il y a quelque chose qui plaît beaucoup aussi dans cette scène-là.
Si je peux rajouter, je vais rajouter aussi la procession. Parce qu'il y avait une ambiance extraordinaire. On avait tous les sapeurs, il y avait la musique, l'ambiance. On a eu des gens qui sont entrés en transe. Il y a eu vraiment une émotion qui était vraiment particulière.
C'est l'hommage à Kings.
C'est l'hommage à Kings. C'est une des dernières scènes. C'était c'était à Château Rouge. On avait l'ambiance de la rue. On avait les voisins qui sortaient pour regarder qu'est-ce qui se passait. Enfin, il y avait vraiment un truc. C'était fou. C'était surréaliste. Et pour le coup, c'est une des scènes aussi que j'adore. Et c'était beau.
Oui, complètement. C'est vrai que là, vu que maintenant que t'en parles, c'était fou. Ce moment-là était fou. C'était un moment précieux. C'était pas gagné du tout. Tous ces sapeurs dans la rue, en extérieur. Au mois de décembre ou novembre, je sais plus. Enfin, il y avait plein de paramètres qui faisaient que ça pouvait être très compliqué. Puis il y a eu un moment magique. Même la météo était avec nous, parce que ce jour-là, je me souviens, il pleuvait. C'était dramatique. On s'est dit, on va jamais y arriver. Et puis le moment où on était prêt à y aller, il y a eu une fenêtre de trois quarts d'heure, je crois, une heure. Il s'est arrêté de pleuvoir, on a fait ce qu'on avait à faire, on a vécu un moment magique, et au moment où je me suis dit, ok, j'ai absolument tout ce que je veux, il s'est remis à pleuvoir.
Génial. On termine par vos projets. Cindy, est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver? Du mannequinat, d'autres films? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent dans ce printemps ou l'été?
Je viens de terminer un tournage avec Omar Sy, un film French Lover qui est réalisé par Nina Rive. Donc c'est mon troisième projet. Ce sera sur Netflix, ça sort l'année prochaine. Donc c'est un de mes projets qui arrive. Et puis il y a plein de choses hyper excitantes. C'est mes débuts, donc j'ai tout à apprendre, j'ai tout à découvrir. Mais du coup, c'est ce que je préfère, parce que finalement, c'est plus le chemin que la destination pour moi qui me plaît le plus. Donc voilà, c'est une bonne année en perspective, et j'ai vraiment hâte aussi qu'on découvre mon travail et qu'on puisse me dire voilà ce que ça donne.
Eh bien, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Cindy Bruna, je vous le dis, moi. Yoann, prochain film ou pas?
Oui, je prépare mon deuxième long métrage que j'espère tourner d'ici la fin de l'année. Je croise les doigts. On est en recherche de financement encore, mais j'ai un casting déjà qui commence à... Enfin bon, voilà, j'ai plein de choses qui se mettent en place. J'ai un autre projet de long métrage aussi, mais qui sans doute se fera un peu plus tard. Et j'ai aussi une série qui va se passer à nouveau dans le quartier de Barbès et de Château Rouge, que je suis en train de développer là. Et voilà, tout ça va arriver, j'espère, dans l'année, dans les deux années qui viennent.
Bon, vous êtes bien occupé. En tout cas, c'est Prosper. Ça, c'est mercredi au cinéma. Merci Cindy et merci Yoann d'avoir été avec nous pour cette spéciale. On vous dit à bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
Bon, t'as vu, j'ai emprunté ton corps. Donc mon problème, c'est ton problème. Toi et moi, on va aller chercher le Zoba qui m'a fait ça.
Oh, personne t'a dit que t'avais un buisson qui t'avait poussé sur la tête?
Fabrice, c'est boué.
Maman! C'est toi qui m'as fait ça?
Non, c'est pas moi. Mais ça te va bien?
J'ai plus rien sur le caillou, on dirait une noix de coco. Maman, t'es sérieuse ou quoi?
Osa, stylé, hein? L'argent, il est où? Espèce de fils de pute.
Hey! Oh, pardon, madame, pardon.
Ça va te paraître complètement délirant ce que je vais te raconter, là.
Mais tu vas mettre combien, là, maintenant?
Voilà!
Il est mystérieux, mon fils. Tu connais ça?
Maman, ça s'appelle Tinder. Pourquoi tu lui mets une photo avec ton fils? Ah non, franchement, ramène pas de gars ici pour te faire chienne juste à côté, là, l'angoisse, hein.
Allez, ne bougez pas dans un instant. Raphaël Langlais, Gisca Calmanda et Ken Scott nous rejoignent dans Chut, on écoute la télé. A tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
C'était mon rêve de pouvoir te prendre dans mes bras. Petit gars, papa deviendra un jour le même que moi. des galères tu auras, des efforts tu feras. Mais mon petit gars, y'a que comme ça que tu apprendras. Écoute ce que dit ton cœur, ferme les yeux si t'as peur. Tu sais mon fils, moi aussi j'ai fait des erreurs. C'était mon rêve de pouvoir te prendre dans mes bras. Ta mère c'est une reine et toi t'es devenu son roi. Tu voudras partir et rien n'aura changé quand tu voudras revenir. Avec le temps t'effaceras blessure et bobo. Tu regarderas ce qui te manque le plus sur les photos. Tu sortiras le soir avec tes amis et puis tu craqueras pour une jolie fille. Des galères tu auras, des efforts tu feras. Mais mon petit gars, y'a que comme ça que tu apprendras.
On écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est le film à ne pas rater ce mercredi dans les salles. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine avec le réalisateur Ken Scott qui est avec nous. Bonjour Ken.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver après Au revoir le bonheur, qui est un film québécois dont on avait parlé il y a quelques années maintenant. Vous voilà de retour avec un film en France qui sort donc mercredi. Racontez-nous un petit peu l'histoire de départ en quelque sorte et d'où vient le projet.
C'est un projet qui s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est un projet qui a débuté il y a 3 ans exactement. J'étais au Festival de l'Alpe d'Huez et j'ai croisé les gens de la Gaumont qui m'ont invité à lire le roman de Roland Pérez. Et puis j'ai lu une première fois et sans même le déposer une deuxième fois. Et puis je savais tout de suite que ça devait être mon prochain film. J'ai tout de suite commencé la scénarisation. Et puis voilà, c'est un beau projet, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'une mère, ça se passe sur 50 ans. C'est l'histoire d'une mère qui aide son fils à s'émanciper d'un handicap. Le fils naît avec un pied beau. Et puis, ça, c'est seulement la moitié du film, c'est la moitié de l'histoire. La deuxième partie du film, c'est lorsque ce jeune homme arrive à l'âge adulte, il doit, lui, s'émanciper de sa mère. Alors, c'est intéressant parce que les deux parties du film se font écho en quelque sorte, parce que, voilà, c'est une première partie où cette mère donne absolument tout à son fils. Elle se bat pour lui bec et ongles pour qu'il puisse se défaire de cet handicap. Et puis une deuxième partie où il y a ce jeune homme qui doit se défaire de sa mère qui lui a tout donné comme ça. C'est une histoire qui se passe à Paris entre 1963 et aujourd'hui. Il y a quelque chose de singulier dans cette histoire. Mais en même temps, il y a quelque chose d'universel parce que ça parle des relations entre les mères et les fils.
Vous avez réussi à vous détacher un petit peu du roman ou est-ce que automatiquement ça impose un peu quelque chose aussi?
J'avais pas du tout envie de me détacher du roman parce que le roman est très bien écrit. Le roman est écrit par Roland Pérez qui est aussi le protagoniste de l'histoire. Donc j'avais la grande chance en fait d'adapter ce roman en scénario, mais d'avoir toujours accès en fait à l'auteur. Alors, je pouvais à tout moment l'appeler pour savoir quelques détails.
Ça, c'est une chance.
Ça, c'est une grande chance. Ouais. Mais c'est une grande chance d'avoir un partenaire comme Roland Pérez qui a été très, très, très généreux dans tout ça. Après, évidemment, il y a un travail d'adaptation parce qu'on condense 50 ans en 1h40. Donc, évidemment, c'est un travail où il y a un véritable challenge, mais ça a été...
Parce qu'il y a des changements de décor, des changements d'époque. Il faut s'adapter à l'époque dans laquelle on est. Donc, en plus, j'imagine tourner un peu dans le désordre, tout ça.
Oui, tout à fait. Ça, c'est la partie au niveau de la production. Ça a été un grand challenge de filmer tout ça et puis de s'assurer qu'on était fidèle à chaque époque qu'on filmait.
Pourquoi Sylvie Vartan?
Oui, Sylvie Vartan, elle a eu une place vraiment très, très importante dans la vie de Roland Pérez.
C'est une sorte d'hommage?
Tout à fait, tout à fait. Donc, elle fait partie de l'histoire. Elle fait partie du film aussi. Elle fait partie du casting. Donc, j'ai eu la chance de tourner avec Sylvie Vartan. Je crois qu'on a eu 3 jours de tournage ensemble.
Je crois qu'on va voir Jonathan Cohen comme jamais peut-être on l'a vu encore au cinéma.
Ouais, j'ai vraiment un casting absolument formidable. Il y a Leila Bekti, il y a Jonathan Cohen, il y a Joséphine Japy, Anne Leni, Jeanne Balibar et tout plein de jeunes. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un casting qui est en fait dans le ton du film. C'est une comédie dramatique. On parle de choses très, très, très sérieuses, mais avec une certaine légèreté, évidemment. On parle d'handicap, on parle de pieds beaux, mais en même temps, grâce à la folie du personnage interprété par Leila Bekti, il y a une espèce de légèreté. Et avec Jonathan Cohen, il a les mêmes qualités que Leila Bekti. C'est un acteur formidable, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est évidemment amené de la comédie. Donc, c'est ce que j'ai recherché dans tous les gens que j'ai choisis pour le casting, c'est en fait de m'assurer que ce soit des acteurs qui étaient intéressés à bien raconter l'histoire, à interpréter ces personnages, pour s'assurer en fait qu'il y ait une certaine légèreté.
Plus facile de tourner au Canada ou en France?
Je peux pas vraiment déterminer qu'il y a une grande différence entre tourner au Canada ou tourner ici. Chaque projet a ses challenges, chaque projet a ses spécificités. Je prends toujours bien le temps de bien choisir mes équipes, de faire des rencontres avec tout le monde et de m'assurer que tout le monde a les mêmes envies. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'avais une très, très belle équipe et c'était vraiment une super ambiance et j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner ce film.
En tout cas, et puis si vous voulez voir peut-être Au revoir le bonheur, vous pouvez le voir certainement en VOD aussi et découvrir les îles Madeleine qui sont magnifiques. Vous avez filmé merveilleusement bien il y a quelques années. Je vous invite à découvrir ce film de Ken Scott aussi. Et puis mercredi dans les salles, en tout cas, ça sera Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan qu'on va découvrir votre nouveau film tourné en France. Merci beaucoup Ken.
Merci à vous.
On va se quitter avec la bande-annonce. C'est parti.
Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout...
Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher?
Pars à l'hôpital!
Il a donc dû inventer les mères.
Je peux le voir.
Il a un pied beau.
Et l'autre, il est pas beau?
C'est une malformation.
Votre enfant est handicapé.
Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle.
On devait rentrer à l'école en septembre.
Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant.
Mon mari n'était pas médecin, il était robot.
On va devoir placer Roland en famille d'accueil.
J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps.
Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé continue après la nuit. C'était la semaine dernière, les 2 premiers épisodes. On en a parlé avec notre amie Marie Malia. Et on va donner la parole aux hommes cette semaine avec Raphaël Langlais qui nous a rejoint. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors pour ceux qui auraient raté les deux premiers épisodes, on va suivre l'histoire de quatre victimes d'un violeur en série qui vont unir leurs forces pour briser le silence. Elles ont toutes été agressées sous le même mode opératoire. Et au même moment, toi tu reviens auprès de ta sœur. Alors il faut dire que ton personnage de Romain, il est particulier. C'est-à-dire que dès le départ, on se pose presque la question si c'est pas lui, justement le violeur en série. Il y a plein de choses dans dans le premier épisode en tout cas qui viennent se mêler avec ce retour très tourmenté parce que c'est un personnage vraiment très ambigu, le tien.
Oui, c'était justement le traitement des points de vue, le traitement du personnage d'Alice quand elle le voit dans la rue, pas loin d'une des scènes de crime. Et il y avait aussi cette capuche, puis cet air inquiétant qu'il a. Mais ça, c'est vraiment la façon dont le réalisateur joue avec le spectateur dans les deux premiers épisodes. C'était une mise en présentation du personnage sur un axe un peu inquiétant. Et puis finalement, on va découvrir qu'il est de l'autre côté, qu'il est policier, qu'il va participer à l'enquête. Donc c'est vrai qu'il y a une chouette évolution entre ce qu'on pense de ce personnage et ce qu'il va se révéler être ensuite. C'était un petit challenge pour que tout ça soit crédible, tout ça passe bien. Et puis surtout, il y a une transformation, entre guillemets, physique à jouer. Parce que quand on le retrouve, il est... il a dormi dans la rue.
C'est un homme abîmé, quoi. C'est un homme vraiment abîmé par l'alcool,
Exactement, très abîmé. On ne sait pas exactement où il y a l'alcool, mais il y a peut-être d'autres choses. Tout ça n'est pas très clair. Même au cours du récit, on le retrouve des fois. On ne sait pas si c'est les effets indésirables du médicament ou si c'est l'alcool ou si c'est autre chose. Enfin, c'était intéressant à jouer parce qu'il est jamais à l'endroit où on pense qu'il va être. Et il y a des moments de où il est en forme physiquement, il y a des moments où il est extrêmement abattu, ça n'arrête pas de changer et je trouvais ça joli de parler de l'addiction aussi d'un personnage important comme ça dans une série avec ce que ça amène, les corollaires sur la famille, sur les relations avec sa sœur, sur ce qu'il a pu faire, on comprend qu'il s'est battu, c'est quelqu'un de très torturé qui porte un lourd secret et qui malgré tout est bon dans son travail, c'est le seul endroit où il assure encore un peu. C'est quand il est sobre et qui se concentre sur une enquête, mais dès qu'il n'y a plus le cadre de l'enquête, il redevient entre guillemets cet homme brisé, quoi. Donc c'était vraiment intéressant à jouer.
Ah oui, parce que c'est ce qu'on a vu dans les deux premiers épisodes, c'est qu'il est policier à la base, il a été suspendu à cause de ses problèmes d'alcool, mais il se révèle être un redoutable enquêteur, en tout cas ce personnage de Romain Novak. Et quand il va apprendre que sa sœur a été victime en plus de ce violent en série, tout va exploser un peu pour lui intérieurement. C'est hyper intéressant justement de jouer un personnage comme ça avec toute cette trajectoire qu'on suit depuis le premier épisode et qu'on va suivre jusqu'à la fin. Comme ça, j'imagine pour toi, en tout cas, ce bonheur que ça a dû être à pouvoir le construire.
Oui, et puis encore une fois, j'ai fait un travail. Je suis peut-être tombé sur un des meilleurs directeurs d'acteurs avec qui j'ai travaillé. Donc, c'était un plaisir d'aller travailler dans le détail. J'ai rarement fait de tournage où il y avait une telle envie de faire bien sur le plateau. Je dis pas qu'il y a d'habitude du jugement foutisme, pas du tout. Mais là, au-delà du sujet, il y avait une envie collective de suivre notre réalisateur et qu'il était tellement exigeant, tellement précis dans ce qu'il voulait que. Il y avait une émulation et je me suis rarement senti autant investi dans un rôle qu'en travaillant sur celui-là, de par le sujet, de par ce qu'il y avait à jouer dans ce personnage très particulier. Et puis on trouvait plein de petites clés et puis il y avait beaucoup d'improvisation, il y avait beaucoup de choses qui étaient créées. Moi j'adorais le fait que des fois il ne disait pas coupé, il a glissé quelque chose à l'oreille, on refaisait la prise immédiatement et ça c'était des moments volés. J'avais l'impression de jouer tout le temps en fait. Et il y avait une telle préparation qui avait été faite en amont que sur le plateau, il y a par exemple les face cam, c'était pas dans le scénario, c'est quelque chose qu'il a inventé, qui a été validé par la chaîne, qui amène une telle dimension, toutes les adresses à la caméra des victimes, des personnages principaux, amène une telle empathie que c'est vraiment une série émotionnelle parce que certes il y a une enquête mais on est dans autre chose, on est dans l'extra humain, dans le très sensible, dans des choses vraies et il a eu ce même détail pour tous les rôles, même les plus petits, et c'est ce que j'ai adoré dans ce projet. Et cette énergie là elle est dans le film, elle est précise, il faisait énormément de plans par jour, ce qui est vraiment une gageure dans l'économie de la télé. Et tout est à l'image, les mains de Diego qui viennent contrôler le personnage de Charlie. Il y a plein de plans comme ça qui racontent beaucoup mieux que le texte et des fois beaucoup mieux que les dialogues. Dieu sait que des fois en fiction française, on a tendance à trop dire et ne pas assez faire et ne pas laisser assez les acteurs jouer. Et là, ça joue. Et des fois, avec très peu de mots, des silences, des regards, des respirations, des rythmes. Même le montage, des fois, raconte l'état émotionnel d'une personne, et c'est extrêmement riche. C'est pour moi, encore une fois, un des meilleurs projets auxquels j'ai pu participer.
C'était une leçon pour le jeune réalisateur aussi que tu es, Raphaël, parce que...
Ah, J'ai découvert que je n'étais pas réalisateur. En toute honnêteté, c'est Frank Steen, par Indra Sierra, qui a choisi ce nom pour des raisons qui ne regardent que lui pour signer la série, mais c'est... Moi, je vous dis honnêtement, c'est une des personnes les plus riches en création. C'est un génie. Je pèse pas mes mots. C'est un génie. Des gens qui savent comment on fabrique un programme télé quand on a 8 heures pour faire 10 minutes utiles pour les gens qui ça parle et que vous avez ce résultat à l'image, cette qualité de photographie, de cadre, de précision, de montage, de musique, de jeu. Mais clairement, face à quelqu'un qui est une montagne de talent. Une montagne de talent. Quand je dis je suis pas réalisateur, c'est juste que j'aspire à ça, mais j'en suis encore très très loin. Je ne serai sûrement jamais, parce que ce mec a 4 cerveaux, qui va très très vite et toute cette richesse-là se retrouve à l'image.
Heureusement que tous ceux qui travaillent sous ta réalisation sont beaucoup plus élogieux quand même, hein, dis-moi, parce que je sais que les gens adorent travailler justement sous ta direction aussi. Mais du coup, ce genre de projet en tant que comédien, ça nourrit le réalisateur qui est en toi. Ça, c'est sûr.
En toute humilité,
ça va développer
oui.
Plein de choses. J'en suis sûr pour la suite.
Je pense. Peut-être que ça me donnera plus de liberté et plus d'exigence. Parce que c'est ce que j'ai retenu avec lui. C'est, la liberté et l'exigence. Aller au bout de ses idées et ne pas avoir peur d'être créatif, même des fois quand on est un peu seul au monde avec son idée, mais voilà, c'est ce que je retiens. Mais voilà, j'incite vraiment les gens à regarder, les gens qui suivent la fiction française, vous allez voir, pour moi, il y aura un avant et un après qualitatif sur cette série. C'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien.
Alors, si on a fait connaissance justement avec les 4 personnages, au départ, là, les épisodes qu'on va voir ce soir vont s'intéresser aussi vraiment à la libération de la parole au premier suspect. Il va y avoir plein de choses qui vont se dessiner dans cette enquête que tu vas mener de front, du coup, avec Karine, le personnage d'Alice Dobelcourt, vous êtes quasiment les deux seuls à vraiment écouter, à croire, justement, si les victimes. C'est ce silence assourdissant, justement, dans cette station balnéaire qui fait froid dans le dos aussi, hein.
Oui, c'est ce que j'ai aimé parce que le film a un côté un peu volontairement conte. On ne sait pas vraiment où on est, on ne connaît pas vraiment cette ville, elle est un peu étrange. Les personnages sont volontairement très marqués. C'est un peu comme un conte, mais qui renvoie à quelque chose de très, très quotidien et de très vrai dans les réactions des gens, souvent par rapport à la parole des victimes, de mettre en doute. Et j'ai aimé qu'en creux, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle du consentement, par exemple, par le personnage joué par Myriam qui est dite une femme libre, dite une femme un peu légère entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que les gens disent d'elle. Du coup, le fait qu'elle se fasse violer, c'est comme si elle était moins victime que les autres de par sa vie. Il y a toujours ce jugement des autres sur la vie de chacun, ça pose plein de questions en creux, sur le consentement, sur le des fois comment les victimes sont reçues dans les hôpitaux, au commissariat, le regard de la police des fois sur les victimes, ce qui est heureusement pas toujours le cas, mais là il y a aussi cette figure du collègue d'Ali, justement, joué par Jérémy Pop, qui au début vraiment un vrai connard, on peut le dire, et puis finalement il commence à écouter les victimes et à y croire, donc il a une arche très intéressante.
Oui, parce qu'il y a une vraie trajectoire dans son personnage aussi, à Jérémy.
Ouais. C'est très humain, en fait, c'est très humain. Il n'y a pas vraiment de jugement sur les personnages, au spectateur de ressentir les choses telles qu'il les voit. On n'oriente pas le regard du spectateur de se dire c'est pas du tout manichéen. Mais c'est ce que j'ai aimé de cette série, c'est qu'elle est dans la zone de gris. Par exemple, c'est sûr que le personnage de Romain, oui, il veut aider sa sœur, mais ce n'est pas que altruiste. Il le dit aussi à son brigadier, c'est que c'est sa dernière chance. Il sait aussi que le cadre du travail, c'est ce qui l'empêche de plonger c'est ce qui peut même le sauver. En tout cas, lui donner une certaine parenthèse, le temps de corriger les choses avec sa sœur, avec sa mère, avec son passé. Mais c'est pas que altruiste. Ce n'est pas que pour aider sa sœur. C'est ça que j'aimais aussi. C'est que c'est aussi intéressé. Il sait qu'il n'a que le cadre de l'enquête pour ne pas plonger. Donc, il est là aussi par intérêt, entre guillemets, un peu égoïste.
Raphaël, si effectivement il y a des projets absolument incroyables comme ça, je sais qu'il y a aussi un plaisir énorme, c'est à retrouver ces personnages de Candice Renoir une fois, deux fois par an comme ça maintenant aussi, et que tu adores réaliser aussi. Et maintenant que Candice devient détective, il va se passer encore plein de choses. Il va y avoir encore un nouvel épisode cette année en 2025 qui va être tourné, il me semble.
Alors je n'ai pas du tout de confirmation de ça. Je sais qu'en 2025 ils vont diffuser celui qu'on a tourné l'année dernière, là, le tout dernier réalisé par Nicolas Picard-Dreyfus, que je n'ai pas vu, donc j'aurais je ne pourrais pas vraiment en parler parce que je l'ai toujours pas vu. Je pense qu'il ne va pas tarder à être diffusé puisqu'il est passé en Belgique il n'y a pas longtemps. C'est une nouvelle direction pour Candice puisqu'elle est détective privée, donc de fait on est beaucoup moins présent. Mais je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite. Pour l'instant, c'est vraiment la grande interrogation. Bah, à chaque fois, en fait, quand on fait un,
mais c'est ça,
un outil, on est tributaire de l'audience. Mais malgré le succès que cette série a eu, c'est vrai que
bah, comme tout
le monde, on est tributaire de l'audience. Il y a la sanction du dieu Audimat qui nous dira si stop ou encore. Donc pour l'instant, je peux pas vous dire s'il y en aura un autre. Vraiment.
Et ben nous on dit encore en tout cas. Et puis pour retrouver la suite de Après la nuit, et bien c'est ce soir et c'est à 21h10 sur France 2. Vous ne ratez pas les épisodes 3 et 4. Et il y a un casting de fou: Charlie Bruno, Alice Dobelcourt, Antoine Hamel, Jérémy Pop, Ludmila Dabo, Grégoire Bonnet, Christine City, Ariel Semenov, Marie Malia qui est avec nous lundi dernier, Myriam Bourguignon. Bref, c'est complètement dingue. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller y voir. Il faut que la parole se libère justement. On est là aussi pour ça. Pour se faire l'écho de tout ça. Merci beaucoup, mon cher Raphaël.
Avec grand plaisir. Et voilà, j'invite les auditeurs à regarder cette série ou alors découvrir en replay parce que c'est vraiment une très très belle série.
Oui, parce que si vous avez raté les deux premiers, vous pouvez y aller sur France.tv. Si ce soir, en voyant les épisodes 3 et 4, vous avez déjà hâte d'avoir la suite est déjà aussi sur France.tv. Voilà.
Exactement.
Merci à toi. Allez, on va se quitter avec la bande-annonce. Voici ce qui vous attend ce soir sur France 2.
Merci.
J'ai cru qu'il allait me tuer.
Chut. Ce matin, il avait une blessure à la main et pas d'explication convaincante.
Samuel n'est pas le meilleur.
Faut que tu parles à quelqu'un.
Parler, mais je fais que ça, parler. Personne m'écoute.
J'ai besoin de savoir qui m'a violé.
Ce qui me fait flipper, là, ta pote.
Il a accès à leur maison, il connaît leurs habitudes. Ça peut être un agent immobilier, un électricien.
Non, mais non, j'ai violé personne, moi.
Vous avez été violé maintenant ou il y a plusieurs années? Ne restez pas seul, venez nous parler.
Ce serait bien que les gens n'en rajoutent pas.
Je vais lui parler.
Ils veulent plus de prise de parole publique. Il faut que t'arrêtes avec tes vidéos, là.
Vous voyez, tout le monde se prête au jeu.
Si, je n'ai pas envie.
Le promeneur nous a prévenu ce matin, il n'y a pas de traces suspectes sur le corps.
Tu te rends compte qu'à cause de ta gueule, là, il y a quelqu'un qui vient de mourir?
On s'est tous fait tester pour ta gueule. Et pourquoi? Pour de la merde.
Mais c'est bon, arrête.
Il cherche quelqu'un pour entraîner son équipe.
Tu croyais qu'il était à Paris?
Viens avec moi.
Il resterait jamais parti sans son portable.
Tu crois à la justice, toi?
Ouais. Bah, pas moi.
Camille!
Qu'est-ce que c'est tout ça?
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Carpe Diem, la suite. Vous avez peut-être découvert la série la semaine dernière sur TF1. Si c'est pas le cas, vous pouvez vous rattraper sur TF1+. En attendant, on continue à en parler épisode 3 et 4 cette semaine avec Jiska Calvanda qui est avec nous. Bonjour Jiska.
Bonjour.
Un rôle incroyable, celui de l'assistante, qui nous fait rire aux côtés de Samuel Le Bihan. Et il y a franchement des antagonismes entre vous qui sont assez dingues et une répartie à toute épreuve.
Bah ça, c'est bien écrit parce que si ça ne tenait qu'à moi, hein, je ne dirais rien.
C'est vrai? T'es plus timide dans la vie?
Ouais, je suis très timide. Enfin, je pense être timide, mais en tout cas, Sigourney, on se ressemble beaucoup dans le fond, mais dans la forme, je pense qu'on est vraiment extrêmement différentes. Elle est plus rentre-dedans, plus cash. Moi, je vais prendre plus de pincettes, je vais arrondir les choses. Elle, Sigourney, bim, elle y va, quoi. Elle est plus directe.
Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que quand Sigourney est arrivée, alors elle répond à l'annonce de cet avocat. Pour ceux qui ont raté les deux premiers épisodes, on parle de Tom Villeneuve, qui a été accusé à tort du meurtre de sa femme, qui vient de passer 17 ans en prison et qui a passé le concours justement pour être avocat. Et donc, à sa sortie de prison, il va tout faire pour essayer de retrouver le vrai meurtrier de sa femme et surtout essayer de mener des enquêtes à côté de la police. Et puis, évidemment, ton personnage de Sigourney va venir lui prêter main forte en tant qu'assistante au départ. Mais alors la première rencontre sur la plage, elle était incroyable.
Énorme. Moi j'arrive avec mes talons, je viens passer un entretien d'embauche parce que j'ai juste envie de faire mon métier, c'est-à-dire être avocate, être juriste, enfin voilà.
Elle est très carrée, très cartésienne Sigourney.
Vraiment, elle passe pas par mille chemins. Et j'arrive à cet entretien d'embauche sur la plage avec un mec pantalon retroussé, avec un parasol et avec des bières en guise de
bienvenue.
Et donc la rencontre elle est folle quoi. C'est un coup de foudre mais pas la définition du coup de foudre qu'on pourrait avoir. Moi en tout cas de ce que je me suis raconté pour mon personnage, je me dis que Sigourney à ce moment-là a vu Tom pour de vrai. Et je me raconte que Tom a vu Sigourney pour de vrai. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a ce duo qui fonctionne tout de suite. Parce que c'est deux caractères complètement différents, mais pour moi, c'est les mêmes. C'est-à-dire que les deux sont rejetés par les autres. Tom est rejeté parce qu'il a été accusé du meurtre, il a fait de la prison, on l'a mis de côté. Et Sigourney, elle, est rejetée malheureusement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une jeune femme noire, comme je le dis à un moment donné. Et en fait, on lui dit juste qu'elle ne peut pas faire son métier. Enfin, même si elle a les capacités, même si elle a les moyens pour être une excellente avocate, on lui donne pas sa place. Et pour moi, ils se voient l'un dans l'autre. Par exemple, je pense que Sigourney déteste l'injustice, donc elle déteste le fait que Tom ait fait de la prison pour rien. Tom, lui, il déteste aussi l'injustice, donc il déteste le fait que Sigourney ne puisse pas être une grande avocate, tout ça parce qu'elle a une grande gueule. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est à ce moment-là, je trouve que, enfin, le pont, le lien se fait comme ça entre les deux, quoi. Et c'est pour ça que ça matche bien, parce qu'en fait, ils sont en opposition dans la manière de s'exprimer, mais au fond, c'est les mêmes.
C'est quoi ton parcours jusque-là, Jessica ?
Moi, j'ai fait du théâtre très jeune en MJC avec Ouda Bani Amina, la réalisatrice de Divine. J'ai fait des séries, des films aussi. Et après, j'ai eu besoin de me former. Donc, j'ai été au Théâtre National de Strasbourg, au TNS, pendant 3 ans. Donc voilà, théâtre et cinéma aussi.
C'est ton premier grand rôle, comme ça, sur TF1, rôle principal féminin ?
Ouais, sur TF1.
Et face à Samuel Le Bihan ?
Quel cadeau, je peux dire, ouais. Je trouve qu'on se fait tous des cadeaux. Je pense que c'est une rencontre, en fait. Vous le regardez aussi, et grâce à ça, peut-être, on pourra faire une saison 2, une saison 3, une saison 4, même si ils vont me tuer.
T'es partante, justement?
Ah ouais, grave. Avec plaisir. On s'éclate trop. Vous avez vu, ils sont trop drôles. Une belle brochette.
Exactement, ils étaient lundi dernier tous avec nous. On veut continuer juste en parler de Carpe Diem. Est-ce que tu as d'autres projets pour la suite à part Carpe Diem ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver en théâtre, cinéma ou télévision pour toi ?
La saison à venir, je suis au théâtre exclusivement avec Lorraine de Sagazan, le spectacle Léviathan, et après on verra. Parce que s'il y a une saison 2, donc je peux pas non plus commencer à planifier autre chose. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que le théâtre va me prendre énormément de temps. Donc, j'aurai pas trop le temps de tourner entre, mais on verra après.
Bon. Écoute, en tout cas, on te souhaite plein de belles choses. Carpe Diem. On va continuer à découvrir la suite, épisode 3 et 4, avec de nouvelles histoires. Et puis encore, évidemment, beaucoup de comédie amenée aussi par ton personnage. Et ça, c'est ça aussi qui nous plaît beaucoup. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci Jiska, et puis on retrouve Carpe Diem cette semaine sur TF1. La suite, on écoute tout de suite un extrait.
Cette nuit-là, vous passez un moment ensemble, et quand vous partez, elle est vivante.
Je vous le jure.
Je vais vous sortir de là.
Vous êtes bien avocat ?
Ah, vous inquiétez pas, je serai sorti pour votre procès. Vous venez pour l'entretien ? J'ai passé le barreau.
En prison, je sais. Vous venez de purger une peine de 17 ans pour le meurtre de votre femme.
Vous êtes bien renseigné.
Vos bureaux, ils sont où ?
Je suis sur le coup.
Quand un type commet un crime, il a beau être le plus malin, il commet toujours des erreurs.
Vos méthodes sont douteuses, mais efficaces.
Carpe Diem, votre série inédite, bientôt sur TF1. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Magma qui sortira mercredi dans les salles. À cette occasion, Cyprien Vial, le réalisateur, est avec nous. Bonjour Cyprien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, avec ce film où on va découvrir Marina Foïs, Théo Christine, Mathieu Demi, avec l'histoire de Katia, qui dirige l'Observatoire volcanique de Guadeloupe, et qui va donc devoir gérer une éruption majeure. Et évidemment, c'est pas sans rappeler les évacuations qu'ont pu connaître les Guadeloupéens dans les années 70. J'imagine que c'est un petit peu inspiré de tout ça, cette histoire, Cyprien.
Oui, il y a un événement que je ne connaissais pas. En 1976, le volcan du sud de la Basse-Terre en Guadeloupe, la Soufrière s'est réveillée et a généré une situation assez anxiogène et complexe. Elle a aussi créé un conflit, un combat de coq entre deux scientifiques de l'époque, Haroun Taziev et Claude Allègre. Un combat de coq, un combat d'ego qui a conduit à une évacuation de plus de 70 000 personnes en Guadeloupe. Évacuation au départ justifiée, mais qui s'est révélée être abusive dans la mesure où Claude Allègre, à l'époque, a camouflé des données scientifiques qui prouvaient que le volcan s'était endormi. Il ne l'a pas dit parce que politiquement et économiquement, c'était assez arrangeant de déplacer beaucoup de monde vers la Grande Terre où le port naissant avait besoin d'ouvriers. Je me suis demandé, en fait, quand j'ai pris connaissance, en fait, de cet événement, je me suis demandé ce qui se passerait aujourd'hui si la soufrière montrait des signes de réveil assez similaires. Je me suis dit que cet événement dans les années 70, peut-être c'était l'histoire de deux salauds qui pensaient un petit peu qu'à leur tête et pas trop à la population. Et je me suis demandé si je pouvais pas inventer, moi, un binôme de fiction contemporain, un binôme qui peut-être parviendrait à gérer cette situation un petit peu mieux que eux à l'époque. Voilà, moi j'aime bien faire des films pour... me confronter à des territoires et des gens ou des thématiques que je ne connais pas. J'étais allé en Guadeloupe quand j'étais petit, à l'âge de 13 ans, et je gardais un souvenir très fort de la montée sur la Soufrière. Et depuis, j'ai toujours beaucoup aimé les volcans parce que j'aime la montagne et je trouve que les volcans, ce sont des montagnes qui racontent des histoires. Quand on marche sur un volcan, en général, il y a des roches de couleurs différentes et on peut comprendre sans grande connaissance technique les différentes, les événements qui ont eu lieu, les différentes éruptions et voilà. Donc, j'aime la montagne, j'aime qu'on me raconte les histoires. Donc, le volcan, c'est vraiment un terrain que j'avais envie d'explorer à travers la fiction.
Cela dit, il faut quand même le souligner, la Soufrière fait partie d'un des volcans les plus imprévisibles. Certainement au monde, parce que le Piton de la Fournaise, il n'y a pas de surprise. D'un seul coup, il se met à cracher et les Réunionnais sont habitués, c'est quasiment leur quotidien. Alors que là, la Soufrière, c'est pas du tout la même chose. C'est, il peut sournoisement, effectivement, à tout moment, surprendre tout le monde.
C'est vrai qu'on a trois volcans sur le territoire français, dans les territoires outre-mer, trois volcans différents. Et le volcan réunionnais, le Piton de la Fournaise, est très médiatisé parce qu'il est extrêmement vivant et il crache beaucoup de lave. Le spectacle est superbe, mais aujourd'hui il n'est plus très dangereux. Donc c'est un volcan qui est observé par un observatoire qui est le plus grand et le plus riche du territoire français. Comme il est très 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 vivant, tout ce qu'il raconte peut servir à comprendre d'autres volcans. Mais d'un point de vue dramaturgique, on sait à peu près anticiper l'endroit où la lave va couler et il n'y a plus de danger pour les populations a priori. J'ai parlé avec la directrice de l'observatoire de La Réunion pour préparer le film et elle me disait, je lui disais, mais est-ce qu'un jour quand même le danger pourrait se présenter? Elle me disait, bon, à l'échelle de nos vies, à tous les deux, certainement pas. Peut-être dans 500 ans, le Piton pourra être vraiment représenté un danger fort pour la population réunionnaise. Mais c'est pas pour tout de suite, quoi. En revanche, les deux volcans antillais sont vraiment sournois et la Soufrière est, voilà, est connue pour l'être particulièrement. Donc évidemment, d'un point de vue narratif, c'est super. Et moi, ce qui m'a intéressé avec le film, c'est en enquêtant un peu sur les volcans, j'ai découvert que c'était des êtres vivants assez complexes et que ce qu'on apprend à l'école, la catégorisation des volcans en famille est un peu simpliste, quoi, les volcans gris, les volcans rouges. Bon, les volcanologues avec qui j'ai travaillé pour écrire le film m'ont expliqué que le volcan était une créature, un volcan gris peut tout à fait devenir volcan rouge à l'échelle de sa vie qui est vachement plus longue que la nôtre. Donc forcément, voilà, c'est peut-être pour ça qu'à l'école, on nous l'apprend pas. Bref, un volcan, c'est compliqué. Aujourd'hui, la volcanologie a vachement progressé depuis 76, mais ça reste une science jeune. Donc on est capable de comprendre et d'anticiper les grands mouvements, mais c'est super dur pour un volcanologue de donner des conseils et de donner des diagnostics très précis à court terme aux institutions et aux politiques, voire aux gens, à la population comme nous, qui vivons à un rythme de consommation de l'information et de volonté de tout comprendre très vite. Donc c'est ce décalage qu'on a pas mal vécu pendant le Covid, en fait, de les scientifiques qui ont leur temps à eux et la société, les politiques qui ont leur temps plus rapide. C'est de ces temps différents que naît une sorte de friction qui m'a passionné, et c'est pour ça que j'ai choisi d'offrir le rôle d'une volcanologue à Marina Foïs. J'ai voulu qu'on regarde un peu ce que ça pouvait être le quotidien d'une volcanologue, alors qu'elle probablement rêve de vivre une éruption, mais ça arrive presque jamais, donc c'est la première fois que il y a un remous volcanique aussi fort pour le personnage de Marina, qu'incarne Marina, Katia. Donc c'est à la fois formidable, alors qu'en fait, c'est très dangereux, c'est très tendu. Donc c'est l'histoire quand même d'une femme qui, en vivant son rêve, se rend compte que bon, son rêve, il est quand même, il est bizarre, quoi. Il est donc c'est l'histoire d'une femme qui aussi, à 52 ans, vit ce que plein de gens dans leur métier ou dans leur vie vivent beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, c'est vraiment un récit d'apprentissage, mais tard, quoi.
Et puis ça englobe beaucoup de monde autour d'eux, leur famille, puisque elle est accompagnée de son fidèle écuyer, de son étudiant qui est incarné par Théo Christine, qui lui a toute sa famille justement qui est impactée par par ce déplacement. Hein.
Le personnage d'Aimé est guadeloupéen et il connaît cette terre guadeloupéenne mieux que Katia. Et donc il a beau être un jeune padawan, un jeune thésard, être le suiveur de sa bosse qu'il admire parce qu'elle est bonne. Hein. C'est une bonne volcanologue, mais dans cette crise où on va pas forcément vraiment beaucoup l'écouter, est-ce que elle va réussir à garder, à rester sur Terre, à rester, est-ce qu'elle va réussir à continuer de travailler avec son équipe? Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ce moment où la scientifique est mise dans un tel bouillon de stress que ça devient compliqué de tout gérer quoi.
Ouais, est-ce qu'on a encore les idées claires? Est-ce qu'on est encore rationnel quoi?
Ouais, c'est ça en fait. Est-ce qu'elle est pas en train de devenir folle? Katia a une forme de syndrome de la sauveuse assez prononcée. C'est une femme qui vit en Guadeloupe depuis plus de 10 ans et qui est très bien intégrée, mais elle n'est pas née en Guadeloupe. C'est une femme blanche. Voilà, c'est une sachante. Il y a une certaine défiance de la population qui est assez justifiée depuis la crise de 76, en tout cas sur ce point de vue de la gestion de l'information par rapport au volcan. Il y a des gens qui ont été évacués et qui savent qu'ils ont été évacués pour rien, donc ils sont pas forcément un respect absolu pour la parole scientifique. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était de lui faire traverser une immense difficulté professionnelle et de créer un film très tendu.
Voilà, voir de l'intérieur ce qui se passe quand il y a un soupçon justement de drame qui pourrait arriver.
Et donc le film n'est peut-être pas aussi spectaculaire que les films américains avec des volcans qui pètent, qui crachent de la lave, mais j'espère qu'il est spectaculaire en termes de tension. C'est-à-dire que j'aimerais bien, si vous allez le voir, que vous sachiez pas trop qui va péter en premier ou qui va péter. Est-ce que Katia va péter un plomb? Est-ce que le volcan va péter et de quelle manière? Parce qu'un volcan, c'est pas donc que de la lave, ça peut être des cailloux qui sortent, des gaz, de la boue. Enfin, c'est plein de catastrophes plus ou moins graves et qui peuvent impacter des zones très différentes. Donc voilà, l'idée du film, c'est de vous perdre, de vous entraîner dans une zone d'incertitude et d'inconfort très forte, comme si vous-même vous étiez pris dans une situation de réveil volcanique. Un réveil très sourd, hein, parce que le magma gronde, mais on n'en voit pas la couleur pendant en tout cas un certain temps.
Et c'est ce qu'on verra en allant voir le film, comment va se terminer toute cette histoire. Ça s'appelle Magma, c'est ce 5 mars au cinéma, un film de Cyprien Vial avec notamment Théo Christine et Marina Foïs, à ne pas manquer au cinéma pour voir des superbes vues en plus de la Guadeloupe, bien sûr, très bien filmé. Merci beaucoup, Cyprien.
Merci à vous.
On écoute la bande-annonce et on se dit à très vite, en tout cas.
À très vite.
Nous avons observé la naissance d'une grosse fumerole qui a provoqué une explosion phréatique modeste. On peut dire à l'heure actuelle qu'on est hors de danger.
Ça va ?
Ça caille !
Hier, vous expliquiez à tout le monde que plus rien n'allait se passer. Ce matin, on assiste à la plus forte remontée magmatique depuis 50 ans.
On parle d'un volcan vivant.
Les conditions de vie des déplacés sont particulièrement pénibles.
Papa, on te dit que c'est pas encore le moment de rentrer.
On est vraiment à deux doigts de recommander la levée de l'évacuation.
Pourquoi tu dis ça? Tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, c'est pas protéger les gens, ça.
J'ai pas de leçon à recevoir d'un petit thésard qui vit sa première éruption, d'accord?
Madame Reiter, vous semblez inquiète.
Non.
Allez, surtout ne bougez pas, les Bodins débarquent dans Chute, on écoute la télé avec Guillaume Cléris. Un rendez-vous à ne pas manquer, c'est dans un instant, juste après ça.
Bouge pas, Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé.
Je peux pas me concentrer quand je les entends se marrer. Pas fini ma journée, je dois rendre un tas de projets. Le train-train quotidien, métro, boulot, y'a pas moyen. Et si je lâche pas prise, je suis à deux doigts de la crise. J'ai des soucis plein la tête, mais mon cœur lui est à la fête. Quand on s'enlace, nos corps s'embrasent. 3, 4, c'est si bon quand on lâche. J'ai des envies que je rejette, et mon cœur n'en fait qu'à sa tête. Quand on se lasse, libre. Je suis toujours dans l'excès, avec moi c'est tout ou rien. Quand est-ce que je me sens vivre? Demain ce sera trop tard, aujourd'hui nous appartient. Mais y'a cette voix qui me répète que c'est pas raisonnable. La vaisselle se marie, puis de toute façon je sais pas quoi mettre. Autant de questions, des notifications. Ce soir la pression, ça reste à la maison. J'ai des soucis, plein la tête. Mais mon cœur lui est à la fête. Quand on s'enlace, mon corps s'embrase. 3, 4, 6, c'est bon quand on lâche. J'ai des envies que je rejette. Et mon cœur n'en fait qu'à sa tête. Quand on se lasse, tout au loup tracasse. 3, 4, 6, c'est bon quand on lâche. J'ouvrirai les yeux. Je me sentirai légère, oh oui. Je me sens mieux quand on aura zéro. J'ai des soucis plein la tête. Mais mon cœur lui est à la fête. Quand on s'enlace, mon corps s'embrase. 3, 4, 6, c'est bon quand on lâche. J'ai des soucis plein la tête. Mais mon cœur lui est à la fête. Quand on s'enlace, corps s'embrase. 3, 4, c'est si bon quand on lâche. J'ai des envies que je rejette. Et mon cœur n'en fait qu'à sa tête. Quand on se lasse, que tout nous tracasse. 3, 4, c'est si bon quand on lâche. C'est si bon quand on lâche. C'est si bon quand on lâche.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné consacré au film Les Baudins partent en vrille. Et ils l'avaient promis, ils étaient là avec nous il y a un mois pour fêter leurs 30 ans. Ils sont de retour dans Chute on écoute la télé. Vincent Dubois, Jean-Christian Fraissinet, bonjour à tous les deux.
Salut Alain, on est revenu, t'as vu, on te l'avait dit.
Ah oui. Il lâche rien, vous avez qu'une parole tous les deux.
Ah, non, ouais, on l'avait dit, on l'a fait, voilà, on est là.
En même temps, toi t'es toujours là pour nous aussi.
On est toujours là l'un pour l'autre, et moi c'est ça, j'adore.
Il y a un mois, hein. Toujours aussi magnifique.
Merci Jean-Christian. Mais vous êtes venu avec un cadeau aujourd'hui, puisque alors on avait prévu avoir Mylène Farmer, mais du coup on a Guillaume Cléris qui est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour, c'est un lot de consolation, mais c'est pas mal quand même. Bonjour.
Mais vous allez voir pourquoi on parle de Mylène Farmer. Alors Les Baudins partent en vrille, c'est la comédie de ce mois de mars à ne pas rater, puisqu'il y a beaucoup de fond dans ce film, mine de rien. On parle évidemment aussi de grosse industrialisation face aux petits producteurs, et on peut dire que Maria, je crois, va y aller franco de port du côté du salon de l'agriculture, et il va se passer une espèce de blackout, évidemment, qui va mettre tout le monde d'accord et on va beaucoup rire. Comment est venue l'idée et qui est un peu l'instigateur de cette histoire qui va nous faire partir en voyage au Maroc?
En fait, avec Jean-Christian, ça fait très longtemps qu'on voulait traiter ça dans un film ou un spectacle. Le film s'y prête mieux. La désertification des campagnes. L'un et l'autre, on vit à la campagne. On est né à la campagne. Jean-Christian dans le Berry, moi en Touraine. Et on voit nos petits villages s'essouffler, les commerces qui ferment. On manque de médecins partout. L'industrialisation, les gros qui veulent bouffer les petits, alors que c'est les petits qui font bouffer les gros, toutes ces choses-là, on voulait en parler, et puis là, voilà, c'était l'occasion, et puis les Baudins, une fois de plus, ils vont pas se laisser faire, donc il y a une usine, un gros groupe industriel qui veut venir installer une usine de fromage de chèvre à côté de chez Maria Baudin, je pense.
Pousse-y les trois galoches.
Et je pense qu'ils savent pas où ils mettent les pieds, ouais. Ça va chauffer.
Forcément, ça donne envie. Le maire se laisse avoir. La plupart des habitants sont pour l'installation de cette usine parce que ça va apporter du boulot. D'ailleurs, Maria voit ça d'un mauvais œil parce qu'elle fabrique ses fromages artisanaux. Mais le fils, il dit, c'est peut-être l'occasion d'aller bosser dans l'usine et puis de quitter un peu ma mère, de d'avoir un salaire et tout ça. Il est un peu partagé. Puis voilà, la signature doit se faire au salon de l'agriculture et les Baudins décident d'aller là-bas pour contrarier cette installation d'usine. Et puis on va se retrouver au Maroc sans savoir comment on est arrivé là-bas, un peu à la comme dans le film Very Bad Trip. On peut pas vous dire comment ça se passait parce qu'on le raconte dans le film. On
exactement.
Part en vrille.
Voilà. On peut juste dire quand même que vous allez avoir une vieille connaissance qui va faire éruption au salon de l'agriculture, une vieille connaissance marocaine qui risque de vous embrouiller un petit peu.
Ouais, bah voilà, puis on se retrouve là-bas.
Avec le cadeau du jour, en l'occurrence, Guillaume Cléris qui joue le rôle
du bras droit du grand DG de Mondial Lacta.
Voilà, je suis un peu le bras armé du méchant du film. Armé pas très très longtemps, hein, très vite désarmé. Ouais.
Oui, Maria va pas se laisser faire.
Voilà, et c'est j'incarne ce personnage qui va prendre cher pendant tout le film, et c'est je pense aussi ce qui fait rire les gens, et c'est ce qui donne à rire, c'est que ce personnage d'abord assez détestable va se faire laminer. Le Maroc pour lui va être une forme de quelque part de voyage initiatique où il va perdre beaucoup de choses, mais reconnecter avec son humanité et au fil du film se ranger en fait du côté, sans trop en dévoiler, mais en tout cas se ranger plutôt du côté des Bodins.
Il va reconnecter beaucoup de choses justement aussi, ce bras droit, se remettre beaucoup en question.
Ouais, il est parfait, il est bien. Non mais en tout cas, avec Guillaume, on est ravis de l'avoir avec nous parce que on vient de faire une tournée d'avant-première dans laquelle il nous a accompagnés quelques fois et les gens à la fin du film nous parlent toujours, mais qui c'est cet acteur là formidable, et il perce l'écran, il a un rôle super.
Les filles le trouvent très beau, ouais. Et ça nous agace un peu, donc on va essayer de le défigurer.
Bon, en tout cas, c'est une belle épopée au Maroc et sous la houlette de Frédéric Forestier que vous retrouvez après justement votre épopée en Thaïlande. Et c'est vrai que pour le cinéma, c'est devenu vraiment votre chef d'orchestre un peu préféré, hein, qui est très précis. Après Chasse Gardée aussi, qu'il a signé il y a quelques mois. C'est vraiment un réalisateur hyper précis et au montage, en tout cas, c'est hyper rythmé. C'est ça qui est hyper agréable.
Ouais, bah Fred, c'est comme Guillaume, nous, on a envie de réunir ces gens-là autour de nous. C'est d'abord un très bel humain. C'est un mec super et c'est quelqu'un qui a une force de travail inouïe, il lâche jamais rien. Maintenant, il commence à bien connaître notre univers des Bodins et il a quelques spécialités, en l'occurrence les courses-poursuites et les grosses scènes avec de la figuration. Et lui, il connaît très bien la comédie et ces scènes-là. Et nous, on a vu le film, on a été complètement emballés par ce qu'il nous a fait faire et puis ce que ça rend à l'image.
C'est un directeur d'acteurs super, qui est très très astucieux, très fin, etc., qui met en confiance, parce que les acteurs, on a toujours besoin de confiance, hein, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, il a vraiment un vrai sens de la comédie, un vrai sens de la construction du film, du montage aussi, parce qu'il fait un boulot avec le monteur incroyable. Le film a... C'est une vraie comédie d'aventure avec beaucoup de rythme, il se passe plein de trucs, etc. C'est franchement un film très grand public, populaire, mais vraiment au bon sens du terme, avec sous-jacent ce vrai fond à défendre, qui est la désertification des campagnes.
Il y a un vrai sujet de société, hein, mine de rien. C'est peut-être le film dans lequel vous avez traité le sujet de société de façon très drôle, mais dans lequel il est le plus présent, malgré tout aussi. Guillaume, quand tu as découvert leur univers, comment arriver à ne pas mourir de rire quand on enregistre une scène avec eux deux là?
Bah, ça n'arrive pas, on meurt de rire. Non, mais ça arrive, malheureusement, ça nous est arrivé. C'est notamment sur quelques scènes qu'on a tournées à la fin où c'était très très difficile de pas craquer. Mais non, après c'est assez facile de travailler avec eux parce qu'en fait, ils sont extrêmement, extrêmement habités par leurs personnages. Ils sont très sérieux, en fait, quand ils sont en face de nous. Alors, quand Jean-Christian est en Christian et quand Vincent est en Maria, c'est vraiment Maria que j'ai en face de moi, c'est vraiment Christian. Donc, en fait, comme eux ne frisent pas, eux se connaissent pas à la perfection, nous, voilà, il faut juste être un tout petit peu concentré et être dans le même ton qu'eux, à savoir premier degré, pas chercher à faire plus qu'il n'en faut, être juste dans le ton et s'accorder comme un orchestre, s'accorder, quoi. Prendre leur roue et non, c'est assez facile en fait, c'était très rassurant même d'être avec eux, fun et aussi très rassurant.
Les premières scènes du début, j'ai cru reconnaître Descartes.
Oui, on a ouais, le tout.
Même à la fin, il y a une fête de village aussi.
Ouais, alors la fête de village, on l'a tournée, ça représente le village des Bodins, Pouziou, les Trois Galoches. On l'a tournée dans un petit village pas loin de Descartes, à Preuilly-sur-Claise, exactement. Et puis effectivement, bah, quand on a des séquences à tourner dans notre ferme des Bodins, on reprend toujours la ferme dans laquelle on joue l'été. Donc les petites scènes, quand ça se passe dans la cuisine et les petites scènes d'extérieur, voilà, ça s'est tourné effectivement sur notre lieu de spectacle du plein air.
Alors, chose qu'on peut dire, quand même, il va y avoir beaucoup de surprises dans ce film, mais on peut dire que Rocco est du voyage quand même, ça on peut peut-être le dire.
Rocco, c'est un des personnages principaux, ouais, ouais. Non, Rocco, on peut le dire, c'est un bouc, voilà, c'est un bouc magnifique qui va être récompensé pour des talents qu'il a. Peut-être que ces talents peuvent... Le public peut imaginer ses talents au nom qu'on lui a donné. Voilà. Non, mais Rocco, Il a quelques points communs avec le fils Baudin, c'est pas sa libido, c'est quelquefois son odeur, voilà.
Bon, ça donne le ton en tout cas de ce qui va se passer. On va écouter la bande-annonce. Les Baudins partent en vrille. Et après, je sais pas Guillaume ce que t'en penses, mais moi j'aimerais bien que Maria et Christian viennent faire un tour. Les appels après ?
Ah oui, avec plaisir. Ça fait un petit moment que je
les accompagne.
Ah oui, avec plaisir, j'ai hâte.
Bon, on va demander à Maria, on va essayer de récupérer Maria et Christian Baudin dans les coulisses. Et puis on va écouter la bande-annonce. On revient, j'espère, avec eux si on les trouve. À tout de suite.
Arrête, mon voyant, le petit est à côté. Christian, t'es là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
On est où, là ?
Au Maroc, mes amis !
Oh ben merde ! Un arbre à chèvre !
Ben oui, mais sauf que ça pousse pas dans les arbres, les chèvres, abrutis !
Va falloir qu'on lève le camp, on va pas se traire toutes seules, nos chèvres !
On va pas essayer d'en profiter un petit peu ? On bosse toute l'année comme des loirs, là, et ça pour 10 euros d'argent de poche ? Jamais un jour de RTTT ?
On n'en fait plus des bagnoles comme ça, hein !
Comme toi, Madame Maria, elle a des fuites, mais elle est coriace !
Et surtout, ne buvez pas l'eau d'Igéricane. Une belle colique, c'est comme une moustache. Ça vous change un visage, hein.
Voilà, de retour, les Baudins partent en vrille. Mercredi, dans les salles, Guillaume Cléris est avec nous. Bon, Guillaume, qu'est-ce que ça te fait de revoir Maria et Christian, là, qui sont à côté de toi?
Bah, enfin, ça y est, je suis content. Ça va, Maria, depuis le temps?
Oui, mon petit lapin, ça va très bien. On s'est adoré tout de suite avec le Guillaume. D'abord, il est beau garçon. Faut dire ce qui est.
Ça a dû te plaire, Maria.
Énormément. Bon, il est plus de ménage, mais sans, oh, je m'en fous complètement. Alors là,
elle est toujours pas ménopausée, ma mère?
Ah oui, carrément, à 85 ans?
85 ans, elle a des retours de
flamme.
Retours de flamme, c'est incroyable.
Et on peut dire que Guillaume a goûté à la flamme.
Guillaume, tu confirmes?
Je sans commentaire.
Bon, ma chère Maria, en tout cas, on va encore vous en faire voir de toutes les couleurs, hein, à tous les deux, avec Christian, dans ce nouvel opus des Baudins partent en vrille. On peut dire que Vincent Dubois, Jean-Christian Frayssinet et Frédéric Forestier ne vous ont absolument pas épargné, encore une fois.
Oui, mais c'est bien, parce que nous, on aime ça, l'aventure. Et alors, j'ai plus l'âge de m'enterrer chez moi, j'ai l'âge d'aller voir du pays. Les voyages forment la jeunesse. Il se trouve que sous ma vieille couenne, j'ai un cœur encore très jeune. Hein, mon petit Christian?
C'est vrai qu'il nous ménage pas le Frédéric Forestier puis les deux autres gigotos, le Frayssinet puis Dubois. Ils sont, hein?
Ils écrivent bien.
Faut les supporter. Je sais pas s'ils écrivent bien, mais ils nous en font voir de toutes les couleurs. On a peiné sur des dromadaires.
Oui, c'est vrai, mon pauvre Christian.
C'est la première fois de ma vie que je monte sur un dromadaire. Je l'ai sous toutes les coutures, dessus, sous le cou, dessous.
Sur le côté.
Sur le côté, tout y est passé.
Aïe, aïe, aïe. Et ressorti indemne?
Pas tout à fait. On a passé des moments difficiles, mais apparemment les gens rigolent bien de nos âneries, donc ça nous va bien.
Oui, ça, les gens rigolent bien. Et puis, il se pourrait bien encore que dans ce nouvel opus, Christian ait un petit coup de cœur, il paraît.
Alors, ça me gêne d'en parler parce que ma mère est à côté.
Ben c'est ça, c'est pour ça que je le dis doucement.
Guillaume Cléris qui se fout de ma gueule parce que lui, il avait... Tout de suite, il a vu que j'avais le béguin pour Leïla. Leïla, c'est, bah, vous verrez dans le film, elle est jolie, hein. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Et oui, c'est vrai que
toujours qu'il s'amourache de filles trop belles pour lui. J'y ai dit, tu sais à peine conduire une 4L et tu voudrais démarrer une Ferrari, mon petit gars.
C'est toujours ça, ma mère.
Faut dire que là, normalement, il n'y a peut-être pas de surprise. Parce qu'en Thaïlande, quand même, Christian avait dû faire face à une sacrée surprise, dis-moi.
Oui.
Il y avait un costume 3 pièces, quand même.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que je m'étais un peu emballé. Et puis, je suis tombé sur un truc que je ne m'attendais pas. Ça m'a chagriné.
Pourtant, je t'avais prévenu.
Oui, elle m'avait prévenu, ma mère.
Moi, je le vois venir, ces machins-là. Oui, mais lui, ce couillon-là, s'il y a... Ah ben, direct.
Ben non, mais il y avait de quoi s'y tromper, hein.
Oui, c'est vrai aussi.
C'est vrai aussi. Non, mais là, c'est vrai que, bon, ben... Leïla, je l'ai vue toute petite, la gamine. Alors c'est vrai que bon ben, ça faisait quoi, 15, plus que ça, combien, 20 et quelques années qu'on s'était pas vu. Mon vieux, c'était devenu une belle femme. Elle était partie gamine de chez nous. Et puis c'est vrai qu'elle m'a, bon, voilà, mais c'est.
Ah oui, mon Christian, la fleur au fusil.
Hein?
Mon Christian, la fleur au fusil.
Oui, mais elle m'a fait comprendre que voilà, que ça allait être compliqué.
Il a la fleur au fusil, mais il a plus de cartouches, pauvre gamin.
Oh Maria, elle est intraitable, c'est incroyable. Bon,
tout le temps.
C'est cette relation mère-fils aussi, et c'est ça qui est beau. En tout cas, de voir. Merci Maria, merci Christian d'être avec nous. On va rappeler Jean-Christian et Vincent, justement pour terminer cette spéciale. Jean-Christian, Vincent, revenez. Guillaume,
revenez les gars.
Oui, revenez les gars.
Allez, ça à vous.
Allez, c'est parti. Bon.
Oui, à revoir, mon petit.
Ah bah oui, moi j'ai pas eu le droit à mon petit mignon ce coup-là. J'ai eu le droit l'autre fois, mais pas ce coup-là. Sacré Maria. Vincent, ils sont incroyables tous les deux.
Ah bah ouais, elle est en forme, hein. Maria Bodin, loge pas le morceau.
Et mon petit doigt me dit qu'on n'est pas au bout de nos surprises encore, hein. Il va y avoir encore de nombreuses surprises dans les années à venir. Je sens que vous êtes vraiment à fond.
On aime ce qu'on fait, le public nous le rend bien. Ils nous demandent de pas arrêter. La plupart de nos potes commencent à nous parler de la retraite. Et en même temps, ils nous disent « Et vous, surtout, n'arrêtez pas ». Alors, ils s'embêtent pas parce que eux, ils ont le droit de se reposer, mais pas nous. Non, mais on aime notre métier passionnément. On a de la chance. Et on va essayer de continuer d'être digne de ce qui nous arrive. C'est quand même un grand luxe dans la vie de faire ce qu'on aime. C'est ce qui nous arrive.
95, 2025, 30 ans. En tout cas, et les Bodin partent en vrille dans deux jours au cinéma. Le film à ne pas manquer. Merci Jean-Christian, merci Vincent, merci Guillaume d'avoir été avec nous pour cette spéciale.
Merci beaucoup, merci de nous avoir invités.
Et puis à bientôt. Et puis j'embrasse évidemment Maria et Christian Bodin qui étaient avec nous il y a quelques instants, qu'on aime fort, évidemment, pour nos aventures. Et puis on vous dit à très très vite. Voilà, les Bodin partent en vrille, mercredi dans les salles. Merci les garçons.
Merci.
Merci beaucoup Alain.
Merci Alain.
Faut reconnaître, on est bien dedans. Hein. Pour le pied gauche, à la place du 39, me faudrait du 44 parce que j'ai un gros oignon.
Bon, on peut l'acheter, s'il te plaît, en souvenir.
Mais qu'est-ce que tu veux foutre dans ça? On est pas au pied du fou, là.
J'ai jamais fait ça, moi. C'est comme une mobilette, sauf qu'il n'y a pas de guidon.
Je le fais pas exprès, hein.
Oh, punaise.
Bon.
Cette dune-là, je suis quasiment sûr qu'on est déjà passé devant.
Je sais pas comment tu peux en être si sûr que ça. Y a rien qui ressemble plus à une dune qu'une autre dune.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé. On consacrera une large partie de notre émission au téléfilm événement de Thierry Benisti, Le Combat d'Alice, avec Lucie Lost, Bercé, Nicolas Gobbe, Luce Mouchel, Carole Bianic, Thierry Benisti et Pierre Sportolaro qui seront nos invités. Et notre invité d'honneur, ce sera Agustin Galliana qui viendra nous parler de tous ses nombreux projets. Bref, on va pas s'ennuyer.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.